Radio Germaine.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette dernière de Germaine Sport en 2023. Et pour cette dernière de l'année, on vous a concocté un programme aux petits oignons, puisque nous allons parler de JO, de sport d'hiver, de foot, de rugby, de vélo, de sport auto, bref, il y en aura pour tous les goûts. Avec moi aujourd'hui au studio, on a Julie.
Salut.
Et on a Théo qui fait sa première avec nous.
Bonjour à tous.
Bienvenue à toi déjà.
Merci, je suis ravi d'être là pour tenter d'apporter un peu de mon expertise sportive qui ne sera pas autant... aussi grande que la vôtre.
Non, alors, tu peux me tutoyer déjà, mais je suis sûre que
je parlais aussi à Julie et surtout à Julie.
Allez, c'est pas grave. On commence donc très bien l'émission et on va tout de suite commencer avec une grande nouvelle qu'on a eue ces derniers jours. Je ne sais même plus quand est-ce que c'était, mais c'était l'annonce que la France va très probablement accueillir les JO d'hiver 2030. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... On va donc accueillir potentiellement deux JO en l'espace de 6 ans.
Oui, comme diraient nos chers médias, la fête continue. On n'aura pas ce vide sans olympisme en août 2024. Il y a énormément de questions qui se posent. Ce seront des JO pas seulement réduits à une ville, mais qui seront positionnés sur l'ensemble des Alpes, avec un pôle Haute-Savoie, un pôle Savoie, un pôle Briançonnais et même... l'organisation des JO d'hiver à Nice. Je sais pas si Nice est une grande ville de sport d'hiver, mais pourquoi pas.
Nice a une patinoire, donc je pense que c'est pour ça que...
Oui, en effet.
C'est les sports de glace qui seraient à Nice.
Donc je sais pas, t'en penses quoi, Julie?
Alors, je suis pas tout à fait dans la team sport d'hiver dans cette émission en général. C'est pas moi que vous entendez parler de cette famille de sport. J'avoue qu'en termes, comme tu l'as dit, d'événements, Zélie, ça laisse pas de vide en France. Ça va... encore une fois, faire tout le rayonnement qu'on connaît pour le sport français et voilà, les infrastructures qu'on peut avoir. Après, il y a toujours la question déjà de l'impact que des jeux ont sur les villes qui les accueillent, qu'on connaît bien. Surtout sur des sports d'hiver, je suis pas très montagne, mais on en parlait en début d'émission, est-ce qu'il y aura encore de la neige à ce moment-là? C'est limite la grande question.
Ouais, c'est sûr.
C'est toujours cette question-là à laquelle j'aurais vraiment pas les réponses parce que je suis pas assez axée sport d'hiver pour ça, mais ça interroge.
Oui, on a d'un côté, en fait, on a deux points de vue. On a le point de vue des scientifiques qui nous disent que depuis 50 ans, on a perdu un mois de neige en moyenne dans l'année, donc ce qui est énorme et qui pose des questions justement sur ces JO. On peut peut-être tomber dans la symbolique, les premiers JO d'hiver sont apparus à Chamonix, est-ce que 2030 seront les derniers? Je pense pas, mais justement, ce qui a été vanté sur ce projet, notamment par les forces politiques, c'est le fait que ces JO vont pas renouveler totalement des sites de sport d'hiver, mais vont utiliser 95% des sites qui sont déjà existants. Donc l'impact environnemental sera peut-être réduit par rapport à des jeux asiatiques d'hiver qui sont organisés en Arabie Saoudite.
Ouais.
Donc voilà, ça va soulever des débats, des questions.
Ouais, après, en tant que fan de sport, forcément, c'est un peu un rêve d'avoir des JO sur son territoire. Et là, de pouvoir enchaîner JO d'été et JO d'hiver, moi, en tant que représentatrice des sports d'hiver dans cette émission, forcément, c'est vraiment incroyable. Mais oui, je m'interroge aussi comme vous sur les conséquences écologiques, les conséquences économiques aussi, parce que ça coûte cher d'organiser des JO. Et je sais, alors, autant peut-être que les JO d'été, et encore, ils sont en général pas rentables, mais alors les JO d'hiver, ça reste quand même moins suivi. Ouais. Donc pareil, ça peut aussi, enfin voilà, on a...
15 jours de fête, 15 ans de dette.
Ouais, voilà, ça va peut-être se finir comme ça. Je suis un peu balancée entre mon avis de fan de sport et mon avis de personne rationnelle et responsable. mais bon, de toute façon, ça va sûrement se faire, donc on verra bien ce que ça fera. On va rester encore un petit peu du côté des sports d'hiver, puisque c'était le retour du biathlon ce week-end et toute la semaine dernière. Donc le début de saison et surtout le retour de la Coupe du Monde à Östersund en Suède. La saison s'est ouverte avec les relais mixtes, le relais mixte simple où la France a fini 3e avec Julia Simon et Fabien Claude pour la reprise. La France qui est devancée par la Suède et la Norvège. d'autres bons résultats pour l'équipe de France, puisqu'elle s'impose sur le relais mixte et fait deuxième du relais homme. Mais la performance qu'on a surtout retenue ce week-end, c'est le superbe doublé sprint-poursuite chez Lou Jean Monod, donc pour sa deuxième saison sur le circuit, qui fait vraiment de très 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 belles promesses pour cette saison, puisque voilà, un doublé, là, elle est à 3 points du dossard jaune, donc c'est vraiment, vraiment de très 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 bons résultats. Donc vraiment, ça promet, elle a fait un 30 sur 30 au tir sur les deux courses. Donc c'était vraiment deux très belles courses. Durant le reste de l'équipe féminine, forcément, on est obligé d'évoquer cette affaire extra-sportive qui embourbe un petit peu Julia Simon, la gagnante du Globe de Cristal l'année dernière, et Justine Brezaz, puisque, on vous le rappelle, si jamais vous n'étiez pas au courant, il y a une accusation de Justine Brezaz envers Julia Simon d'une fraude à la carte bleue. Et c'est une affaire voilà, qui traîne un petit peu déjà depuis le printemps. Et donc forcément, ça embourbe un petit peu l'équipe de France féminine si performante l'année dernière dans des affaires extra-sportives. Et du côté des hommes, le début de saison est un peu plus poussif. Mais il faut voilà, noter qu'il y a eu un gros changement de staff cet été, après vraiment la saison l'année dernière qui était assez catastrophique. Donc c'est Simon Fourcade qui a repris l'entraînement, qui est devenu entraîneur de l'équipe de France de biathlon masculine. Donc voilà, on va attendre de voir un petit peu ce que ça fait, mais c'est vrai que après les mauvais résultats de l'année dernière, on attend une réaction. Et pour terminer sur les sports d'hiver, le petit point patinage, vous commencez à en avoir l'habitude. On s'était quitté sur la Coupe de Chine et Adam Xiaoyimfa qui tentait de remporter sa qualification pour la finale. Eh bien, il l'a brillamment fait puisqu'il s'est imposé à la Coupe de Chine devant Shoma Uno, double médaillé olympique. Donc c'est quand même très très fort, on n'attendait pas forcément qu'il gagne là. Donc c'est le seul à avoir gagné ces deux grands prix, donc il arrive à la finale vraiment en position de favori, finale qui aura lieu ce week-end. Donc voilà, il peut totalement jouer le podium et même la gagne, donc on a hâte de voir ça. Et ce ne sera pas le seul français dans cette compétition homme, puisque Kevin Emmaus a réussi à arracher sa qualification au dernier grand prix, au Grand Prix de Finlande, lui en 6ème place, donc du coup dernier qualifié. Mais voilà, deux français en finale, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, ça doit dater de 2006 ou 2007 avec Brian Joubert et Alban Préaubert. Donc c'est vraiment très positif pour l'équipe de France masculine de patinage. Et à noter, chez les juniors, on aura également deux représentants, puisqu'on aura François Pitot chez les hommes, et en danse, Célina Fradji et Jean-Anse Fourneau. Voilà, donc on leur souhaite bonne chance. On passe au foot maintenant, et avec la Ligue 1.
Oui, donc une semaine agitée à la fois sur les terrains, et malheureusement, tristement, en dehors. Pour commencer sur une note positive, Marseille a gagné, ce qui était assez rare ces derniers temps. Marseille s'est relancée face à une équipe, elle aussi, en difficulté. Le Stade Rennais qui a changé d'entraîneur avec le retour de Julien Stéphan. Lyon n'a toujours pas gagné. Lyon continue sa descente aux enfers. Grosso, l'entraîneur a été remercié. Donc voilà, semaine compliquée pour Lyon qui, malgré tout, reste sur une note positive avec un match sportivement intéressant. Et week-end des gardiens en Ligue 1 aussi, avec une prestation à la fois clé de Chevalier contre le FC Metz pour Lille, qui a arrêté deux pénaltys, et une prestation très intéressante du jeune gardien espagnol du PSG, le gardien remplaçant Tenas, qui a pu remplacer Donnarumma après un geste de très haute précision, c'est-à-dire un coup de pied de Donnarumma dans la tête de l'attaquant Avré, qui lui a valu une expulsion totale. Donc son remplacement a été clé et le PSG s'est imposé malgré un carton rouge 2-0 au Havre. Donc victoire précieuse. Comme je le disais, malheureusement, week-end agité en dehors des terrains. On le sait bien avec je ne sais pas si on peut qualifier ça de meurtre, d'assassinat, mais ce supporter nantais qui a été tué dans le cadre d'un déplacement de l'OGC Nice au stade de la Beaujoire. Cela risque de compliquer les déplacements de supporters extérieurs qui ont été ces dernières années limités par les préfectures. La situation dans le foot est emparée par les politiciens qui justement s'inquiètent face à ce regain de violence, un regain qui n'est pas seulement français, qui est européen. On a vu une affaire il y a une semaine avec 50 policiers qui ont été blessés dans le cadre d'une rencontre de Bundesliga. Donc un courant d'agressivité dans le foot, dans le monde des supporters, qui est certainement en hausse. Et c'est un point à surveiller aussi dans ce qui se passe en dehors des terrains.
Et du coup, du côté des équipes de France, on avait des matchs récemment de l'équipe de France féminine, non ?
On a eu le lancement de la Ligue des Nations féminines sur le même modèle qui a été fait chez les hommes depuis quelques années. Donc c'est des championnats avec des équipes qui sont censées être de niveau équivalent, avec d'abord une phase de groupe, puis une phase finale. L'équipe de France a donc joué hier contre le Portugal et l'a emporté 1-0. Sur le plan comptable, elle est plutôt bien placée à 16 points en première place, avec les Pays-Bas en seconde place à 10 points. Donc il y a de quoi être optimiste pour nos Françaises, avec notamment, encore une fois hier, une belle performance de Béchot, qui, malgré son jeune âge, continue de nous impressionner. Donc encore une footballeuse à qui on ne peut pas parler d'âge.
On reste dans les sports collectifs, mais on change de ballon. On va passer au rugby. Et tu vas nous en dire un mot, Julie ?
Tout à fait. Bah, on commence du côté des internationaux avec le fameux Antoine Dupont, notre cher capitaine du 15 de France. Alors bon, on n'a plus de Coupe du Monde dont parler dans nos émissions, donc on reste quand même du côté des internationaux. Il avait déjà parlé de sa volonté de s'essayer au rugby à 7. Et c'est désormais officiel puisque début 2024, donc, il intégrera le groupe qui prépare les JO de Paris pour l'année prochaine. Donc il va faire l'impasse sur les 6 nations avec le groupe de Fabien Galthié. Alors on peut voir ça du côté négatif, du coup, hein, on le verra moins sur les terrains de rugby à 15, mais en même temps on peut se dire que ça va aider à populariser ce rugby à 7 qui se veut bien plus rapide et dynamique, et on l'espère du coup aider l'équipe de France de rugby à 7 à briller pendant les JO de Paris dans cette discipline. Théo, je sais pas si tu as un avis sur ce changement un petit peu de discipline pour cette année.
Je pense que ça peut que lui faire du bien, il reste sur une frustration énorme après cette Coupe du Monde qu'il voyait comme l'accomplissement de sa vie. Donc on sait qu'il a déjà gagné un grand chelem, les 6 nations, c'est une chose faite. Un peu de renouveau peut lui faire du bien. Et justement, on sait à quel point les JO seront cet événement dans le cœur des Français. Et Antoine Dupont a envie de s'inscrire dans l'imaginaire de ces JO. Donc individuellement, je pense que ça peut le relancer et relancer sa carrière au plus haut des niveaux.
Bah, et puis on sait quand même, je pense qu'on peut dire qu'il a, de ce qu'on a vu, les qualités physiques qui correspondent à ce rugby-là. Enfin, il est vraiment connu pour sa nervosité, je veux dire, physique sur le terrain. Enfin, c'est toujours celui qu'on voit partout, qui est toujours dans les bons coups, on va dire. Donc je pense honnêtement que vu sa réactivité, ça peut faire de belles étincelles. Pour passer du coup sur le championnat en France, donc le top 14, on vous parlait l'autre fois des matchs à venir. Alors on a donc les résultats depuis. Toulon qui s'est imposé face à Pau, Bayonne contre Montpellier et La Rochelle qui l'a remporté également face à Perpignan avec des beaux écarts dans les scores. Mais on a eu aussi des résultats un peu plus serrés avec Bordeaux qui devance Oyonnax 29-23, Clermont qui l'emporte sur le Racing 92 23-18 et le classico Stade Français Stade Toulousain qui n'a pas déçu, je pense qu'on peut le dire. Donc c'était la 4e défaite pour Toulouse depuis le début du championnat. Très clairement, je pense que tu es d'accord avec moi, l'affrontement a quand même tenu toutes ses promesses avec une belle bataille, malgré la domination des Parisiens. C'était quand même un match intéressant.
Ouais, le Stade Français était sur une mauvaise série. On lui prédisait un mauvais match, mais il a su faire face au froid, face à cette masse d'internationaux en face, et l'a vraiment bien emporté. Donc c'est une victoire qui laisse prédire une belle saison, une belle suite de saison pour le Stade Français.
Tout à fait, et alors on va désormais passer pour le top 14 à une petite pause dans le championnat français avec donc la Champions Cup, donc au niveau européen. Donc le Racing 92 domine actuellement le classement du top 14, suivi de Toulon et de Castres, mais c'est désormais l'heure de céder la place à la Coupe d'Europe. Donc l'UBB va affronter Connacht, Toulon, etc. et Toulouse va recevoir Cardiff. On aura également un beau match La Rochelle contre le Leinster. Donc on vous tiendra évidemment au courant des résultats. Personnellement, j'aime toujours cette petite pause dans la saison de top 14. Ça fait voir un peu d'autres clubs, d'autres manières de jouer. Je sais pas ce que t'en penses, mais...
Clairement, et on a déjà une affiche de finale de Coupe d'Europe avec ce La Rochelle-Leinster.
Ouais.
Donc on va évidemment le regarder.
On aura aussi la compétition secondaire, on va dire, au niveau européen. Donc le PCR Challenge Cup avec des clubs comme Clermont, Pau ou Perpignan. Donc... un petit renouveau malgré le froid qui commence à envahir les matchs. On vous tiendra au courant des résultats.
Et un petit point handball avec la Coupe du Monde de féminine qui se passe en ce moment.
Et oui, pour finir avec les sports de ballon, on ne peut pas oublier nos féminines qui jouent actuellement en Norvège pour cette Coupe du Monde. On est encore à la phase de groupe, mais pour l'instant un sans faute pour nos Françaises avec une victoire face à l'Angola, l'Islande, la Slovénie. Il reste désormais 3 matchs de groupe contre l'Autriche, la Corée du Sud, et certainement le plus difficile, le plus compliqué en vue face à la Norvège le 10 décembre.
On passe à notre page vélo. Alors, on s'est rendu compte que nous avions oublié de parler du parcours du Tour de France 2024 qui a pourtant été révélé le 25 octobre dernier. Donc, on va tout de suite corriger ça et en parler tout de suite. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Julie ?
Bah déjà, pardonnez-nous pour cette erreur parce que quelle aberration d'oublier de parler du Tour de France.
Même Théo qui ne suit pas, il dit n'importe quoi.
C'est la fin de semestre, on va dire que c'est la fatigue qui a joué sur ce coup-là. Bon, exactement. Évidemment, un grand départ qu'on connaissait déjà à Florence, en Italie. Du coup, on va ensuite se diriger du côté des Alpes, hein, comme la manière la plus logique, on va dire, géographiquement. On aura évidemment des belles arrivées en montagne, hein, avec Valloire notamment, également dans les Pyrénées, Saint-Lary-Soulan, Loudenvielle, enfin voilà, vraiment des beaux sommets, avec également un passage dans le Massif Central que je tiens à souligner.
Et oui, alors je pense que ce tour a été fait un peu pour nous, parce qu'il totalement. Passe à côté de chez toi, et il passe, voilà, on a une magnifique étape Orléans-Saint-Amand-Mouron.
Donc honnêtement, ouais, comptez sur nous pour être en envoyé spécial sur
exactement,
ces étapes-là.
A de bonnes chances de passer par chez moi. Non, vraiment un Tour de France sponsorisé par la Diagonale du Vide finalement. est-ce qu'on peut dire un peu ça ?
Je pense qu'on peut le dire, on parle assez de notre Diagonale du Vide dans les émissions pour,
oui,
pour dire
non,
ça.
Mais c'est vrai que là le nord et l'ouest de la France ont été un petit peu ignorés, mais c'est bien, ça revient au centre.
Ils ont eu leur lot quand même d'étapes,
oui,
et de grands départs.
Ils ont eu leur lot et ils vont encore en avoir en 2025.
Tout
puisque,
à fait.
Dans la foulée, on a eu l'annonce du grand départ du Tour de France 2025 qui sera à Lille.
Exactement, donc le nord de la France qui va connaître les premières étapes de ce Tour 2025. Donc grand départ à Lille avec une première étape du coup relativement plate. Alors dans cette zone de la France du coup on va quand même noter qu'il faudra s'attendre certainement à du vent, des bordures, ça va être mouvementé pour un début de tour je pense. On aura ensuite une deuxième étape plutôt pour les punchers de Loin à... Alors Loin ou Loin, hein, je suis désolée, c'est pas mon coin, donc niveau prononciation, va pas falloir attraper ma veste, jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Et puis ensuite un petit Valenciennes-Dunkerque, donc également plutôt plat. On attend cependant la suite du parcours, on sait juste que la quatrième étape partira d'Amiens, mais voilà, c'est un peu le flou concernant le reste. À noter par contre, ce qui est assez étonnant vu qu'on part du nord de la France, on n'aura pas de pavé.
Ça c'est, je comprends pas.
Erreur dans le casting total.
Ah mais c'est plus qu'une erreur dans le casting. Attends, comment tu fais un grand départ de Lille et tu mets pas des pavés? Genre, ok, peut-être pas en première étape, mais... Enfin, je suis désolée, mais en 2020, ils ont foutu des cols de première catégorie, voire peut-être même en catégorie, je sais plus, mais dès la deuxième étape. Donc enfin, je pense que ASO a déjà prouvé qu'ils ont pas peur de faire des petites dingueries en première semaine. Mais on est dans le nord, on n'exploite pas ce magnifique terrain que sont les pavés. Alors oui, il y a eu une étape de pavés récemment sur le Tour, il me semble. C'était quand? C'était l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. Donc oui, on a vu des pavés il n'y a pas longtemps. Mais là, c'est en 2025. Il n'y en aura pas l'année prochaine. Et on est à Lille.
Après, je ne vais pas mentir. Enfin, ça va pas non plus particulièrement me manquer. Enfin, c'est peut-être peu controversé, mais sur le Tour, ça me choque pas de pas avoir de pavé. C'est sûr que, étant donné que ça partait du Nord, on pouvait s'attendre à ce qu'il y en ait.
J'ai pas réclamé à chaque Tour qu'il y ait des pavés. Mais là, tu fais un grand départ du Nord et t'en mets pas.
Ouais, mais personnellement, je m'en passerai. Enfin, sincèrement, c'est pas...
Non, ça rajoute toujours. C'est le genre d'étape qui... Voilà, c'est le genre d'étape à suivre. Alors, je pense que les coureurs les détestent, mais à suivre, ça peut faire basculer un tour, donc c'est vraiment...
C'est peut-être pour ça que, justement, vu que ça va être dès le début, est-ce que c'était utile de mettre une étape où tout est possible avec des pavés dès le deuxième jour
C'était l'année dernière, avec le grand départ au Danemark, il y avait une étape des pavés qui était tôt, hein, qui était dans la première semaine. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Donc, non, mais ou alors peut-être pas faire une étape entière de pavés, mais quelques secteurs, quoi, voilà, mettre un petit peu de...
Un peu d'action.
D'animation, quelque chose comme ça. Enfin bref. Bon, de toute façon, on saura évidemment toute la suite du parcours l'année prochaine. Mais voilà, le grand départ revient en France. Exactement. Après plusieurs années passées à l'étranger. Donc on a hâte de voir ça.
On a également la présentation d'un autre grand tour qui ne va pas tarder à se dérouler le 19 décembre. Donc ce sera la Vuelta, le parcours qui va être présenté. On sait déjà que le départ se déroulera à Lisbonne. Et alors on a entendu quelques petites rumeurs sur le parcours. Hein. J'ai entendu parler de col avec des pentes.
Tu as des contacts?
Non, j'ai lu la presse. des cols à 15-20%. J'ai lu ça dans certains articles. Ouh, ça pourrait être. Vuelta, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, on n'est pas choqué parce que c'est la Vuelta, mais ça pourrait être vraiment sympa et peut-être faire une Vuelta un peu plus surprenante.
Est-ce que la Vuelta sera intéressante l'année prochaine?
Bon, voilà, on aura un départ du coup le 17 août et ça se déroulera jusqu'au 8 septembre. Donc on a encore le temps de voir venir, mais. Ça promet aussi.
Et alors en ce moment, même si c'est la off-saison des routiers, on a quand même le cyclocross, et je sais que c'est une discipline qui te tient à cœur, Julie, donc vas-y, fais-nous ton point sur la Coupe du Monde de cyclocross.
Bah tout à fait, le cyclocross cher à mon cœur, personnellement, je sais que ça occupe bien mes hivers entre les deux saisons de route. Alors on a eu, depuis la dernière émission, plusieurs manches de Coupe du Monde, ça s'est un petit peu emballé niveau calendrier. Donc la manche d'Endermonde en Belgique avec la victoire de Pim Renard, donc c'était sa deuxième victoire en Coupe du Monde, c'est quand même à souligner. Céline Alvarado qui a remporté la course chez les élites femmes. Pareil pour la manche de 3 en France, mais cette fois-ci chez les hommes, c'est Elise Orbit qui s'est imposée avant que Pim Renard ne réitère à Dublin, donc en Irlande. D'ailleurs, à noter avec ses performances qu'il sera stagiaire chez Lidl Trek sur route l'été prochain. Donc ça peut être sympa de voir un peu ce que ça va donner pour lui sur la route hors des sous-bois. Pour le coup, à Dublin, chez les élites femmes, c'est Lucinda Brand qui s'est imposée, donc quand même une petite alternance, puisqu'elle a réitéré elle aussi à Flamanville, donc à nouveau en France. Et c'est Elise Orbit qui assure l'alternance avec Pim Renard. La prochaine manche à venir sera à Val d'Isole, donc en Italie. Un parcours toujours sympa, et surtout, plus on avance dans l'hiver, plus il fait froid. Donc voilà, des manches avec de la neige et encore plus de cascades pour les coureurs. Alors, on voit bien que pour le moment, donc les trois fantastiques, on va dire, ne sont pas de retour pour le cyclocross, mais on vous avait parlé du calendrier de Mathieu Van Der Poel qui avait été révélé. Et cette fois-ci, c'est tout bon, on a le calendrier de tout le monde, puisque Wout Van Aert et Tom Pidcock ont révélé leur course pour cette saison. Alors, du côté de Van Aert, ce sera une saison de cross plutôt courte, du 9 décembre au 4 janvier. Il fera trois manches de Coupe du Monde pour sûr, celles d'Anvers, de Gavert et de Hulst. Puis des Exact Cross, des Super Prestige, des trophées X2O, donc des courses un peu plus secondaires, on va dire, que la Coupe du Monde. Alors on n'a pas eu de communication cependant sur le championnat du monde en janvier. Donc on suppose qu'il n'y participera pas, donc pas de revanche sur Mathieu Van Der Poel suite au championnat du monde assez épique de l'année dernière. Pareil du côté de Tom Pidcock, donc le Britannique, qui lui pour le coup fera 6 manches de Coupe du Monde et également d'autres courses, mais pour le moment pas de championnat du monde. Donc les trois fantastiques du cyclocross, Van Der Poel, Van Aert et Pidcock, se croiseront sur 5 manches de Coupe du Monde. Ce sera, je pense, déjà assez pour nous régaler en termes de spectacle sur les courses, et personnellement j'ai très hâte de voir ça.
Mais est-ce qu'on les verra aux Jeux Olympiques, ces trois fantastiques?
Alors, on aura Van Der Poel sur le VTT, je crois qu'il veut faire la route aussi. Pidcock fera les deux épreuves, il l'a annoncé. Et concernant Van Aert, logiquement, oui, hein, je pense que...
Au moins en route,
sera,
hein,
il devra... Ouais, en route, ce sera le...
Il n'y a pas de cyclocross au JO.
Non, il n'y a pas de cross, oui. Mais bah, clairement, les JO, c'est un peu ce qui... hante le calendrier 2024 sur la route, ça a un peu tout coupé, tout bouleversé, donc je pense
C'est ça qui fait aussi que le Tour de France est décalé d'une semaine.
Voilà, c'est ça.
Oui, non, c'est sûr que ça va un peu...
C'est un peu l'objectif de beaucoup, là, dans le peloton, actuellement.
Bah, forcément. Et pour terminer cette émission, on va faire un point sur la fin de la saison en sport automobile.
Tout à fait, alors c'est exceptionnellement moi qui vais parler de sport auto, puisque Thérésia et Lilia, nos spécialistes, ne sont pas là pour en parler. Donc un rapide point F1 malgré mon manque d'assiduité sur la Formule 1 cette année. La saison s'est terminée au Grand Prix d'Abu Dhabi, bon, sans aucune surprise, c'est Max Verstappen qui remporte le titre de champion du monde, suivi de Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Et Red Bull est évidemment premier au championnat constructeur. Donc si on n'a pas trop de surprises de ce côté-là, on peut toutefois se pencher sur la jeunesse, et notamment la jeunesse française qui a su briller avec Théo Pourchaire, donc, qui a récemment été sacré champion de Formule 2. Il est ainsi devenu, à l'âge de 20 ans, le plus jeune vainqueur de cette catégorie et le premier champion français de la version récente de la F2. Alors, pour ce qui est de son avenir, il ne peut pas rester en F2 car le règlement lui interdit en fait de remettre son titre en jeu l'année prochaine. Et malheureusement, avec un marché des transferts vers la Formule 1 qui était totalement bouché, sans baguette disponible, on ne pourra pas le voir dans ce championnat-là l'année prochaine. Mais donc selon les informations de la presse, il devrait se retrouver en Super Formula, donc un championnat au Japon, qui est quand même une catégorie qui peut lui permettre d'accéder à la Formule 1 dans le futur, puisque c'est assez bien considéré par les patrons d'écurie. Et de nombreux champions étaient déjà passés par ce championnat, avant la Formule 1, comme Liam Lawson ou Pierre Gasly qu'on peut citer. Donc des essais en Super Formula sont prévus pour lui au Japon dans les jours à venir, donc à voir ce que l'avenir lui réserve. Mais c'était en tout cas un peu le highlight des derniers jours en sport automobile, et ça fait toujours plaisir de voir que la France arrive à tirer son épingle du jeu.
Eh ben, merci beaucoup pour ce retour sur les sports automobiles. C'est comme ça que va se conclure notre émission. On vous souhaite de bonnes révisions. On ne sait pas encore quand est-ce que cette émission sortira, mais elle sortira très probablement avant les partiels, donc bon courage dans vos révisions. On vous souhaite de très bonnes vacances, de très bonnes fêtes, et on vous retrouve en pleine forme en 2024.
Salut à tous.
Ciao, ciao.
À bientôt sur Radio Germaine.